Donc ce matin, on va continuer ensemble notre mini-série dans l'Évangile de Jean, dans laquelle on regarde ensemble toutes les certaines des rencontres de Jésus avec différentes personnes. Et c'est pas moi qui vais dire ça. Aujourd'hui, on est dans Jean au chapitre 8. Et on va parler ensemble de cette rencontre de Jésus avec la femme adultère qu'on retrouve dans Jean au chapitre 8, les versets 1 à 11. Alors, ensemble, on va regarder ce matin quelques petits points. Premièrement, on va regarder ensemble le contexte, les défis du texte. Ce n'est pas un texte qui est hyper compliqué, mais c'est un texte qui est un peu en anglais, c'est « challenger ». Je ne sais pas comment le dire en français. J'en perds mon latin. Bon, mais dans le fond, vous allez voir ensemble, on va voir ensemble comment on n'est pas certain qu'il est vraiment censé être dans le canon biblique. Mais il y a des bonnes raisons pour lesquelles il se retrouve dans nos Bibles. Et ensuite, on va regarder vraiment le texte en soi. Vous allez voir, on a ici un plan que les pharisiens mettent sur pied pour essayer de littéralement tendre un piège à Jésus, de piéger Jésus. Et d'un point de vue humain, la question qu'il pose, Jésus ne peut pas gagner. Et ça prend Jésus pour pouvoir se sortir du pétrin dans lequel les pharisiens le mettent. Et on va voir vraiment la réponse de Jésus qui est exceptionnelle et qui cible le vrai besoin ou la vraie chose ici qui est mise de l'avant par les pharisiens. Et finalement, on va terminer. Parce que pour moi, cette histoire, c'est une histoire qui nous montre beaucoup sur Jésus, mais malheureusement, pour moi, c'est une tragédie. Parce que vous allez voir, dans l'histoire, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas une belle fin. Il y a un silence malaisant. Parce qu'on parle d'un sujet qui, dans le temps de Jésus, était relativement intimidant, et aujourd'hui, encore plus. Mais on va le regarder ensemble. On va voir comment Jésus traite ça, comment la rencontre de cette femme-là avec le Seigneur Jésus nous a vraiment donné un plan. Il y avait plein de façons, plein de titres que je pourrais donner au message. Et le premier qui m'était venu en tête, c'était comment gérer les péchés publics. Et finalement, je l'ai rayé. Et je suis allé avec l'idée suivante. Tout simplement, où est ton cœur? Parce que rencontrer Jésus, ça va transformer ton cœur. Jésus ne s'intéresse pas vraiment à tes actions. Il va s'intéresser à ton cœur. Et ensuite, tes actions vont changer. Et là, on est vraiment dans un contexte biblique profond. Donc, je vous invite à tourner dans Jean au chapitre 8. Et on va lire les 11 premiers versets ensemble. S'il vous plaît. Donc, Jean 8, 1 à 11. Donc, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Donc ce matin, on a ici un texte profond qui nous montre que Jésus n'est pas troublé. On a un texte ici où on a vraiment un problème. On a quelqu'un qui est dans le péché. C'est officiel qui est dans le péché. Et on a une mise en pratique de la loi qui est déficiente. Parce que vous allez voir, la loi de Dieu, elle est claire. Et on peut y tourner. Et c'est des passages que, honnêtement, en 2026, je ne devrais peut-être pas lire si je ne veux pas me faire canceller, là. Mais on va les lire parce que c'est la parole de Dieu. Et on va les lire parce qu'il y a un profond ancrage pour nos âmes. Vivre une sexualité intelligente selon les standards de Dieu va être vraiment important pour, en fait, un témoignage profond et puissant. Mais vraiment, Jésus applique la loi d'une façon exceptionnelle ici. Parce que les pièges qui sont tendus par les pharisiens, ce sont des pièges d'une dureté de cœur. Et Jésus, il sait exactement où mettre le doigt pour que les cœurs soient incapables de rester de marbre. Donc, avant de se lancer ensemble dans le texte en soi, on va aller regarder le contexte et les défis qui sont là. Pourquoi? Parce que si vous avez une Bible avec commentaire, c'est probablement écrit dans votre Bible. On ne sait pas si ce texte est ou non dans le canon original de la Bible. La raison est simple, c'est parce que, dans le fond, si vous lisez l'Évangile de Jean et vous commencez au chapitre 1 et vous passez à travers, les 11 premiers versets du chapitre 8 ne sont pas à la bonne place dans le narratif. Si vous lisez, le verset 52-53, et si vous arrivez au chapitre 8, verset 12, ça semble être la bonne continuité. Et les versets 8 à 11, si on les enlève, le récit continue bien. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un ajout. En plus, il n'y a aucune mention de ce texte dans les manuscrits originaux. Donc, tous les manuscrits qui sont plus vieux n'ont pas ce texte-là dedans. OK? Donc, pour pas que vous fassiez le saut de dire « Ah, dans ma Bible, c'est écrit qu'il n'y a pas ça dans les manuscrits. » Je sais. Mais, il y a quelque chose d'intéressant ici. En fait, c'est... Vous savez, dans le temps de Jésus, il y avait les lettres. Et c'est ce qu'on a ici. On a les lettres et les épîtres de Paul, de Pierre, de Jean. Et on a les évangiles qui sont l'histoire de la vie de Jésus. Et ce qui semble être le consensus, c'est que cette histoire-là, ces 11 versets-là, sont une tradition orale qui est très crédible et qui est vue comme étant une profonde image de la sagesse de Jésus et un avertissement pour l'Église primitive de comment agir avec les péchés publics, mais aussi notre tendance à s'accuser les uns les autres et notre tendance à juger rapidement. Donc, où est-ce qu'on aurait pu mettre ce texte-là? Honnêtement, c'est une belle place. Il y a d'autres gens qui disent qu'il devrait être après Marc 16, il y en a qui pensent que ça devrait... C'est pas important. Ce qu'on a ici, par exemple, c'est que c'est un texte qui est crédible, c'est un texte qui est dans notre Bible, et ça vaut la peine d'y porter attention, que ce soit le canon biblique ou simplement une belle tradition orale partagée. On veut prendre le temps de regarder comment Jésus interagit avec une situation tellement impossible. Parce que, vous allez voir avec moi, ça va être le but ensemble. En fait, il faudrait que j'aille un petit peu plus vite, là. Pour parler les sources et les omissions, pourquoi il est inclus. L'objectif, c'est vraiment d'avoir cette vision-là de Jésus. Et, vous donner une idée, on retrouve le texte placé là à partir du 12e siècle. Ça vous donne une petite idée. Donc, dans les années 1200, ils ont mis le texte là et ils se sont dit, on le laisse là, tout est beau. Donc, on va le regarder ensemble ce matin. Et si vous avez regardé dans le texte avec moi, quand on l'a lu, vous avez pris le temps de faire une petite analyse. On a le plan. Le plan des pharisiens ici, c'est très simple, c'est de proposer une impasse à Jésus. Donc, c'est de mettre Jésus dans une impasse législative. Parce que Jésus est apprécié par le peuple pour sa compassion et ses soins pastoraux. OK? Si tu vas voir Jésus et que tu te déclares pécheur, tu pars justifié. Et ça, les pharisiens ne sont pas capables. Et Jésus a prouvé qu'il était venu, et il le dit, l'évangile de Jean est bâti pour qu'on comprenne que, à partir de Jean chapitre 3, Jésus dit à plusieurs reprises, « Je suis venu pour sauver le monde, pas pour le juger. » Et il le répète à plusieurs reprises, « Celui qui juge le monde, c'est la parole de Dieu. » Mais Jésus est venu pour sauver le monde et pardonner les péchés. Et donc, cette espèce de vision-là de Jésus qui est un Messie, qui est le Messie qui pardonne, qui prend soin, qui connaît le cœur des gens, qui touche le bobo et qui régénère, qui restaure les gens, qui leur donne une deuxième chance, les pharisiens, eux, ils ne sont pas capables. Mais ils sont persuadés que Jésus est comme ça parce qu'il ne connaît pas la loi. Et c'est là le plan ici. Les pharisiens s'attendent à mettre Jésus dans une situation où sa compassion va être en opposition directe avec la loi de Dieu. Et là, ils espèrent qu'il va flancher. Parce que s'il tombe et qu'il dit « on la pardonne quand même », bien, il ne respecte pas la loi. Mais si Jésus, comme vous allez voir, on va aller voir les textes de loi qui dit, si Jésus dit « appliquez la loi », bien là, il n'y a plus de compassion. Et là, on est public, on fait un show, on amène quelqu'un et on ne prend pas soin de la personne. C'est ce que vous allez voir. C'est une tragédie religieuse comme on peut en voir dans notre monde constamment. On prend quelqu'un et là, on le prend en exemple et on le met, on le juge. Donc, le plan des pharisiens, c'est vraiment, est-ce que Jésus va pardonner, excusez, va pardonner à cette dame ou va appliquer la loi? Et les deux réponses donnent deux problèmes. Et je ne sais pas pour vous, mais quand répondre « oui » me donne du trouble ou répondre « non » me donne du trouble, il ne me reste pas vraiment d'option. Si vous êtes comme moi et que vous avez grandi à vous faire dire que « peut-être » n'est pas une réponse, ben on a un problème. Ce qui est intéressant, c'est la façon que Jésus aborde les pharisiens ici. J'aimerais vous dire que les pharisiens n'ont aucun cas ici quand on connaît la loi, mais Jésus ne va même pas là. Simplement pour vous donner une idée, j'aimerais vous amener, vous encourager à lire Deutéronome 17 comme premier indice ici. Dans Deutéronome 17, les versets 2 à 7. Et là, on est dans la loi, les instructions pour juger. Comment est-ce qu'on peut juger? Qu'est-ce qui doit être fait? Donc, premièrement, Deutéronome 17 nous dit la chose suivante. « Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et transgressant son alliance, en allant après d'autres dieux pour les servir ou se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute autre armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. » Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou trois témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite, tu ôteras ainsi le méchant du milieu de toi. » Qu'est-ce qui cloche? On vient de lire ce texte-là. Qu'est-ce qui cloche avec Jean 8? Est-ce que Jésus a le droit de dire « oui, on la lapide? » Non. Il ne peut même pas. Pourquoi? Parce que la main du témoin se lèvera la première. Et Jésus ne va même pas là. Pourquoi? parce que ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu n'est pas dans est-ce qu'on va lapider ou pas quelqu'un. L'enjeu est est-ce que Jésus est un est-ce que Jésus est un Dieu miséricordieux? Est-ce qu'il est compatissant? Où est-ce qu'il va appliquer la loi? Quel type de Messie est-ce qu'on a? Et si vous voulez prendre le temps à votre guise de lire les textes qui parlent des lois sexuelles du peuple et de comment interagir, j'aimerais vous poser une première question. Premièrement, quelqu'un qui commet un adultère, est-ce que ça se fait seul? Honnêtement, en 2026, peut-être. Avec Internet et tout ça, on a le droit de s'identifier comme adultère. C'est pas grave. Mais, honnêtement, un adultère, ben, c'est à deux. Il manque-tu quelque chose ici dans le texte? Il manque pas mal 50 % du problème. Et là, si on va dans la loi, dans Lévitique, un livre exceptionnel que je suis certain vous lisez tous chaque jour. Mais Lévitique étant la loi de Dieu écrite au verset 20, au chapitre 19, les versets 20 à 22, on a un premier clin d'œil ici. Et j'aimerais vous dire, c'est une loi biblique, c'est une loi de Dieu, et vous ne trouverez pas ça nulle part. La loi de Dieu, ici, dans une idée de péché, Dieu sait que l'humanité va tomber dans le péché. Et Dieu, dans toute dans sa sagesse, protège les femmes qui n'ont aucun droit dans ce temps-là. Vous êtes ils sont la possession des hommes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et regardez au verset 20 à 22 de Lévitique 19, qui est littéralement, « Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, c'est une esclave fiancée à un autre homme qui n'a pas racheté ou affranchi. Ils seront châtiés, mais non punis de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. L'homme amènera pour sa faute à l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, un bélier, un sacrifice de culpabilité, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel pour ôter le péché qu'il a commis. » Si vous lisez un petit peu plus loin, c'est aussi demander à ce que l'homme prenne ses responsabilités et la marie ou la rachète. Vous ne verrez pas ça dans d'autres lois. Okay? C'est une protection profonde de la femme que Dieu met ici. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu dois répondre de tes actes en tant qu'homme. Et pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez tourner la page et aller dans Lévitique 20. Et là, vous allez en avoir beaucoup de choses qui sont dites. Et il y a un mot qui revient toujours, c'est un peu la loi. Et ça commence toujours comme suit. Si un homme, au début de chacun de vos versets, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, l'homme et la femme seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Si un homme, au verset 13, verset 14, si un homme, verset 15, si un homme, verset 16. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Je vais vous donner un indice. En hébreu, quand on répète quelque chose, c'est vraiment important. Et je dois mettre en contexte ici, je dois mettre les hommes à leur place des fois. J'en suis un, je me remets à ma place à tous les jours presque. Mais dans le contexte biblique, les hommes sont responsables de la bienséance sexuelle du peuple, de leur couple, de l'enseigner, d'enseigner la décence à leur descendance, à leurs enfants, de prendre soin des gens autour d'eux, de s'éloigner du péché. C'est la responsabilité des hommes. Et la Bible fait un parallèle entre la perte de pureté. Souvent, c'est les hommes qui vont se corrompre en premier. Et la Bible met un élément clair. Les hommes vont se corrompre, oui, mais quand les femmes deviennent corrompues sexuellement, c'est toujours un signe de jugement profond de l'Éternel. Et ici, on a vraiment Dans la loi de Dieu, les hommes sont mis de l'avant et Dieu veut et prend plaisir à protéger les femmes qui sont souvent les victimes dans ce principe-là, qui sont souvent exploitées, surtout dans ce temps-là. Et c'est les hommes qui ont la responsabilité de prendre soin, et c'est pratiquement toujours les hommes qui sont repris par l'Éternel dans les cas, ou même dans les cas où les hommes sont séduits. L'homme est tenu responsable. Et il y a plein de jeunes hommes qui se promènent partout, qui regardent plein d'affaires, avec aucune compréhension de tout le mal qu'ils font à leur âme, de tout ce qu'ils sont en train de s'amasser comme trésor, de colère pour les jours à venir, à quel point ils détruisent leur vision de ce que Dieu leur a donné de plus précieux, et à quel point ils se préparent à détruire leur futur partenaire en faisant plein de niaiseries, en regardant plein de niaiseries. Et aujourd'hui, c'est encore pire, parce qu'ils ont accès à un clic. Puis dans le temps, il fallait aller sur un ordinateur. Aujourd'hui, ils l'ont dans leur poche. Et là, on est dans un contexte 2026. Comment nous, on va répondre à cette idée-là? Mais encore plus, comment Jésus, face à une telle situation, lui, il répond en ciblant le vrai problème qui est le cœur humain corrompu. Donc, on peut regarder ensemble rapidement, parce que le temps avance, mais la réponse parfaite de Jésus. Jésus s'attaque à leur cœur. Et ça nous dit, mettez-vous en exemple, là, on est ensemble le dimanche matin, ou probablement une journée de sabbat, je ne sais pas. Jésus est dans le temple, il enseigne les gens. Et là, pendant qu'il est en train d'enseigner les gens, quelqu'un rentre par la porte et il rentre, puis là, lance la femme dans le milieu. On a surpris cette femme-là en adultère. Moïse nous dit de la lapider. Toi, Jésus, que dis-tu? Voyez-vous, le premier mis en opposition. Moïse dit ça, toi, tu dis quoi? Et remarquez-vous comment Jésus est smart? Il dit à rien. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ne répond pas à l'insensé. Hein? Mais en même temps, regardez bien, verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Ça ne l'intéresse pas pantoute. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus prend le temps de simple contact. Celui d'entre vous qui est sans péché, est-ce que ça existe? Non. Si on est honnête avec nous-mêmes, ça n'existe pas. Mais il y a encore plus profond ici. Vous vous souvenez, on a lu Deutéronome 17? C'était à qui d'amener cette femme-là en justice? Aux témoins oculaires, les gens qui ont vu, les deux ou trois. Et là, on a une troupe de personnes qui viennent. Pourquoi? Parce que leur cœur est méchant. Parce qu'ils veulent faire tomber Jésus. Ils sont prêts à tuer quelqu'un sans avoir passé par aucun des principes. Est-ce qu'ils ont vérifié la chose? Non, il n'y a même pas d'homme. Je veux dire, OK. Est-ce que justice va être pleinement rendue? Pas du tout. Et là, ils viennent et est-ce qu'ils ont premièrement respecté la personne? Et là, on parle des rencontres de Jésus. On peut mettre une mise en situation ici. Une femme adultère, est-ce qu'il veut dire qu'il y avait un mariage? Est-ce qu'elle était mariée puis elle a trompé son mari? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Aucune idée. Est-ce qu'elle n'était pas mariée et un homme marié est venu vers elle? On ne sait pas. C'est quoi l'étape, l'état de son âme? ce qui était seul, ce qui était pauvre. Comment elle se sentait, elle? Est-ce qu'elle avait des contacts avec les religieux de son temps? Tout plein de beaux mystères qui peuvent rendre sa situation compréhensible. Tous ceux et celles qui souffrent avec la solitude savent à quel point ça peut être difficile quand l'ennemi met devant toi une personne qui t'écoute, qui va te compléter, qui prend soin de toi. Oh. Et là, on a une femme brisée, complètement brisée, utilisée. Et son premier contact qu'on sait avec les institutions religieuses, c'est de se faire traîner puis jeter devant Jésus. Cassée, elle, elle le sait, là. J'espère qu'il va s'arranger pour que je ne meure pas. Mais elle sait aussi que il y a une coupe de roches en dehors de la ville qui l'attendent, là. Et là, si on se met en contexte, comment est-ce qu'on voit les autres? Cette femme-là, là, elle n'est pas plus pécheresse que nous autres. Peut-être qu'elle a été poussée plus loin par ses circonstances. On ne sait pas. Est-ce que la grâce de Dieu est trop grande pour elle? Ou trop petite? Est-ce que le bras de l'Éternel est trop court pour la sauver? Est-ce que le bras de l'Éternel... Est-ce que la grâce de Dieu est trop faible pour la toucher? Je ne sais pas. Mais Jésus s'attaque au cœur du problème. Et honnêtement, j'aurais pas aimé ça être dans cette salle-là. Que l'histoire soit vraie ou pas, dans le sens où qu'elle soit entre Jean 7 et Jean 8, 12, là, ou pas, ou qu'elle soit après Marc, on ne sait pas. Cette journée-là dans le temple, Jésus attaquait le cœur. Et là, il fait quelque chose que je trouve exceptionnel. Jésus, il laisse les accusateurs quitter en silence. Il va réduire sa présence. Il est en train d'écrire, imaginez-vous, il est en train d'écrire complètement désintéressé. Il se lève parce qu'il est tanné. Il dit, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lancez la première pierre, puis il se rassoit. Puis il continue à écrire. Et donc, aucune confrontation. Jésus aurait pu, on les a lus, aurait pu leur lire Lévitique 20, Deutéronome 17, Lévitique 19. Il y en a d'autres, je vous donne juste les plus gros passages. Ils sont en train de pécher. Ils sont en train officiellement de scraper le système judiciaire juif. Aucun témoin, aucune recherche. Une femme qui probablement a été utilisée. Il n'y a pas de mari. Il y a juste des problèmes. Ça pue à un kilomètre à la ronde. Et Jésus fait simplement dire, celui qui n'a jamais péché, et chacun d'entre eux savent très bien ce qu'ils font. C'est des pharisiens. Vous savez, c'est quoi les pharisiens? Ils connaissent toute la loi, tous les points, toutes les virgules, par cœur. Mais, demande-leur pas s'ils le font, par exemple. Mais ils la connaissent. Ils vont la faire de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Et ça nous dit, Jésus réduit sa présence. Donc, aucune confrontation. Il réduit sa présence, il continue à écrire. Et là, les gens, ça nous dit dans la parole de Dieu, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Donc, on a vraiment cette idée-là qu'une phrase du Seigneur Jésus a sauvé cette femme-là. Est-ce qu'elle est correcte? Bien là, elle ne se fera pas lapider, hein? C'est fun. Je serais content. Et là, Jésus dit, alors s'est enlevé, là, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Il ne reste plus personne. Ben, good. Gloire à Dieu. Et c'est là que pour moi, la tragédie arrive. Jésus ne condamne pas la femme. Verset 11, elle lui répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Et on n'entend plus jamais parler de cette femme. On ne la voit plus. Et pour moi, c'est une tragédie. C'est les tragédies du cœur, le cœur humain, peu importe où on se trouve dans la société. Le cœur des pharisiens, Et parfois, je vous dirais que dans l'Église, on a tous un petit pharisien dans notre cœur qui connaît un peu la Bible, plus ou moins pour certains, d'autres un peu plus. Et on se plaît, on se trouve un moment, un endroit, une petite boîte de sécurité qu'on va créer avec notre compréhension de la parole de Dieu, dans laquelle on va être bien. Et là, tous ceux qui ne fitent pas dans notre boîte, qu'est-ce qu'on fait? On se compare. Et facilement, tous les pharisiens pouvaient se comparer à la femme adultère. Facilement. Mais ce n'était pas ça qui intéressait Jésus. C'est le cœur de chacun d'entre eux. Le cœur du petit pharisien. Aucun. Et c'est ça qui est attristé. Et là, je suis conscient que c'est un texte narratif. Aucune demande de pardon. Aucune repentance des cœurs des petits pharisiens. Je vous appelle les petits pharisiens, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Aucune repentance des pharisiens. Ils s'en vont. Probablement honteux. Mais pas honteux d'avoir amené une femme pour essayer de la faire lapider par Jésus. Non, non, non. Honteux de s'être fait littéralement battre à leur propre jeu. Ils sont honteux que leur compréhension de la loi n'était pas assez bonne pour piéger Jésus. Jésus est encore libre d'annoncer et de prêcher la repentance en son nom. Et là, ils sont fâchés. Pour eux, c'est une défaite cuisante. Mais le cœur des pharisiens, honnêtement, on le voit, là. C'est un long travail éreinté où Jésus devra, petit peu par petit peu, travailler, montrer que leur compréhension de la loi n'est pas bonne. Et ici, dans Jean 7, on est après le sermon sur la montagne où Jésus a qualifié simplement de regarder une femme et de la désirer dans son cœur comme un péché. C'est comme si tu avais couché avec. C'est comme désirer les choses de ton voisin, c'est comme si tu les avais volées. Et là, Jésus met la barre tellement haute. Et là, on est ici, on a une femme qui est prise, qui est dans une situation qu'on ne connaît pas, qui est abusée, qui est littéralement utilisée par les religieux de son temps. Et les pharisiens gardent un cœur de marbre. Devant la compassion de Jésus, pour eux, là, ça ne vaut pas la peine. Ils sont simplement irrités, ils s'en vont, puis ils ont perdu. La deuxième chose qui me frappe, c'est le cœur de la femme. Est-ce qu'il y a un signe de repentance qu'on peut voir dans le texte? Est-ce qu'il y a une réaction? Honnêtement, moi, si je pourrais me faire lapider et que quelqu'un vient et me sauve la vie, je vais probablement pas juste m'en aller. S'il me dit « Ah, va, il ne pêche plus », je vais faire comme « Ben non, il faut que j'apprenne à te connaître, il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe. Hein? » On peut pas laisser ça comme ça. Mais, vous savez, une des raisons pour laquelle le texte est un peu aussi attaqué parfois, c'est que on voit une facette de Jésus qui est intéressante. Il semble y avoir un espèce de détachement émotionnel face à la situation. Parce que la femme, et c'est un peu ce que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble, il y a une absence de repentance de tous les bords. Et en tant que chrétien, on va le voir ça dans notre monde. Ça vous est-tu déjà arrivé d'être dans une situation et d'être littéralement pogné, que vous répondiez quoi que ce soit, c'est une situation pourrie. Il n'y a pas de bonne réponse. Le péché règne et c'est facile à voir. Ça vous est-il déjà arrivé? Une situation là où vous voulez aider les gens, vous faites tout votre possible, et là, vous êtes pogné entre l'arbre et l'écorce, entre une roche et une montagne. Il n'y a absolument rien qui fonctionne. Et les gens autour de vous veulent rien savoir du Seigneur Jésus. Et c'est encore pire quand on est dans le monde chrétien. Hein? Des chicanes pour la couleur des murs, peu importe. Et là, peu importe ce qu'on dit, ça ne fonctionne pas. Et Jésus nous montre ici une espèce de... Et je ne veux pas faire dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas, mais il y a un certain détachement. Hein? Tu as le choix entre quelque chose de mal ou quelque chose de pire. Et là, tu n'as pas le choix. Et notre Dieu est capable de jongler avec les péchés des hommes. Ça ne lui fait pas peur. Ça lui fait pas peur, lui, qu'on soit des tout croches. Mais il y a un certain détachement. L'absence de repentance dans le cœur humain, c'est un fléau qui est omniprésent. Chez les chrétiens, en premier, parce qu'on connaît le Seigneur Jésus. Et on a parlé tantôt ensemble comment le Seigneur a souffert pour nous. Et ça, c'est quelques mois peut-être avant d'être crucifié pour cette même personne qui l'a probablement sauvé d'être lapidé. Et Jésus est probablement au courant de l'homme qui se promène encore, bien content de sa shot, parce que lui, il ne se fait pas tirer des roches. Et là, on a vraiment les cœurs, les cœurs de pharisiens, le cœur de la femme, le cœur de l'homme qui, lui, s'en est sauvé. Aucune repentance. Et ça, c'est la tragédie. C'est la tragédie parce que devant l'amour et la grâce du Seigneur Jésus, les cœurs sont restés de marbre. Des accusateurs, mais autant que la femme. Et ça, c'est une tragédie. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce texte? Bien, premièrement, une belle application pour vous, très facile. Vous ne devriez pas être surpris. Oups, ça n'a pas marché. Oh, vivons une sexualité qui honore Dieu. Si vous ne faites rien pour vous faire tirer des roches, personne ne va vous tirer des roches. Hein? Non, mais là, c'était intense un peu, fait que là, hein? Vivons une sexualité qui honore Dieu. Oui, si tu n'avais pas fait un adultère, tu ne serais pas ici en train de te faire juger. Y a-tu de quoi de plus simple que ça, hein? Mais ça veut dire tellement de choses pour nous aujourd'hui. Pour les hommes et les femmes qui veulent suivre Dieu, qui veulent honorer le Seigneur et qui luttent avec des péchés. On doit être prêt à honorer Dieu et à des fois accepter d'être repris. Savez-vous ce qui est exceptionnel? C'est que la femme était répréhensible et Jésus ne l'a pas condamnée. Et je pense que tous et chacun, à tous les jours de notre vie, on vit la grâce de Dieu. Il ne nous donne pas ce qu'on mérite. Et on abuse de cette grâce-là à tous les jours. Mais on dirait que quand c'est public, on est comme vite à juger. Si c'est moi, et si c'est moi personnel, mais si c'est public, t'as-tu entendu, toi? Lui, il a fait ça. Elle a fait ça. Et puis là, ça se téléphone, hein? Dans le temps, ça se téléphonait, là. Aujourd'hui, ça se texte, puis ça s'envoie des Snapchat. Mais, hein, t'as-tu entendu? Là, on dirait qu'on est comme content de le dire. Lui, puis lui, ces deux-là, là, ils ont fait ça. Là. OK. Soyons pas trop rapides à juger. Pourquoi? On ne le sait pas, ce qu'a vivait la femme. On ne sait pas non plus qu'est-ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que les officiers religieux l'ont traîné devant Jésus. Contre son gré, probablement. Ça ne devait pas être tenté de voir Jésus. Ils l'ont pris comme exemple. Ils étaient prêts à l'utiliser, à la laisser mourir. Et l'autre point, soyons sages dans nos rapports mutuels. Comment on s'encourage les uns les autres? Comment on prend soin, ou non, les uns des autres? Parce que parfois, dans nos rapports mutuels, on est... En tout cas, moi, je suis vraiment pourri. Si vous n'allez pas bien, ben c'est pas. C'est pas écrit dans votre front. Puis je suis pas la personne la plus empathique de la planète, mettons. Mais soyons sages dans nos rapports mutuels. Est-ce qu'on est capable de mettre de l'avant des façons à ce que les gens en solitude ne souffrent pas de solitude? Bon, on n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est capable de mettre des choses en place, de s'encourager? Dans notre société hyper égocentrique, pognée sur nous-mêmes, où on a tout à un clic, puis les gens ne sortent même plus de chez eux, mais ils peuvent vivre partout dans le monde. Et comment est-ce qu'on peut être dans nos rapports mutuels? Comment on peut s'encourager? Comment est-ce qu'on peut vivre quelque chose ensemble afin que des situations où, là, c'était physique, mais spirituellement, on fait pareil. On prend les gens, puis l'on lit. Va te faire juger. Et c'est quelque chose, soyons sages dans nos rapports mutuels. Dernier point, en fait. Le dernier point est ces deux facettes de la même, du même point. Le premier, c'est approchons-nous donc volontairement du trône de Dieu. Vous savez, cette femme-là a été littéralement amenée devant Dieu, traînée devant Jésus, contre son gré probablement. Et là, ils l'ont mis là en exemple. Elle n'est pas venue volontairement. Et je ne pense pas qu'elle avait envie de rester là, avec son péché reconnu devant Jésus qui lui accorde la grâce. Pour vrai, des fois, en tant que chrétien, on est rapide à faire « Oh Seigneur, pardonne tous mes péchés. » Est-ce qu'on est prêt à rester devant Dieu après avoir dit ça et à contempler ses mains, ses pieds et à le regarder pleurer sur nos péchés, sur notre misère? Est-ce qu'on est prêt à rester là et subir l'amour de Dieu qui nous pardonne? Parce que ce n'est pas la colère qu'on reçoit quand on va au Seigneur, quand on vient volontairement devant le trône de Dieu pour confesser nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a plus de valeur que vos péchés font de trouble à Dieu. Le sang de Jésus, la personne de Jésus a plus de valeur que tout ce qu'on peut faire. Venez volontairement, humiliez-vous devant Jésus. Venez à lui volontairement, laissez-le vous travailler, laissez-le briser vos défenses. Et ça vient avec le dernier point, ne restons pas dans une rébellion. S'il y a quelque chose dans votre vie que vous savez être contre Dieu, être un obstacle à votre proximité avec Jésus, restez pas dans la rébellion. La femme est partie graciée. Jésus lui a dit, « Va, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Est-ce qu'elle était capable de faire ça? Non. Est-ce qu'elle était capable de probablement vivre une vie sexuelle qui allait honorer Dieu à partir de ce moment-là? Honnêtement, quand tu as évité des roches comme ça, il n'y avait probablement plus beaucoup de gens qui étaient intéressés. Je dis ça de même. Mais ce n'est pas ça le principe. Le principe, c'est son cœur. Est-ce que vous pensez que son cœur était régénéré? Probablement profondément humilié, parce que quelqu'un l'a traîné pour qu'elle soit jugée. Ne faisons pas ça. Ne soyons pas une église qui va traîner les gens contre leur gré au pied de la croix. Amenons-les avec nous dans l'amour et la grâce. Et prions pour qu'ils viennent eux-mêmes volontairement s'humilier au pied de la croix avec nous. Prions les uns pour les autres, encourageons-nous les uns les autres et soyons toujours prêts à amener les gens au pied de la croix, mais ne les traînons pas de force. Ça donne rien. La femme est partie, probablement quelques mois plus tard, crier « Crucifiez-le! » Et Jésus l'aimait. Et Jésus ne l'a pas condamné. On abuse de la grâce du Seigneur à tous les jours. On ne peut même pas juger. Mais soyons prêts. C'est un bien triste exemple. Suite à sa rencontre avec Jésus, la femme adultère est repartie vivante et graciée, mais pas justifiée. Aucun signe de repentance, aucune action de grâce ou de désir de suivre Jésus. Si on compare quand Jésus a chassé les démons de l'homme dans le cimetière qui est venu au pied de Jésus et qui a dit « Je veux te suivre ». C'est quelqu'un qui avait sa vie changée, quelqu'un qui a été gracié, qui s'est repenti et qui a cherché la face de Jésus. Soyons comme cet homme et non pas comme la femme adultère qui, à son plus bas, a rejeté le Messie au profit de sa liberté. Je vais inviter le groupe à venir. On va prier. Bien, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, on veut, encore une fois ce matin, on veut te remercier. d'être un Dieu qui est compatissant, d'être un Dieu qui prend bien soin de nos cœurs. Merci Seigneur parce que tu ne t'attardes pas nécessairement, Seigneur, à nous juger ou à nous condamner. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que celui qui s'approche de toi et qui confesse ses péchés sera sauvé. Tu nous dis, Seigneur, que ton sang a plus de valeur que tout ce qu'on peut faire. Aide-nous à le réaliser. Seigneur, on veut te prier parce qu'on veut venir, chacun d'entre nous, volontairement au pied de la croix, te demander de nous aider là où on a de la difficulté, te confesser nos péchés, notre dépendance à toi. Seigneur, on ne veut pas être comme les pharisiens, ou même, Seigneur, comme il semblerait le cœur de cette femme, qui reste rebelle et froid. Seigneur, on veut te donner toutes nos vies, on veut te demander de nous aider, de nous fortifier, de nous purifier, afin qu'on puisse vivre une vie qui te plaît pour vrai. Seigneur Jésus, fais que nos cœurs ne soient pas comme ceux des pharisiens, qui pensent connaître la loi, mais qui ne l'appliquent pas. Ou Seigneur, qui se font leur propre vision de la loi. Aide-nous à ne pas être comme ça. Seigneur, aide-nous à ne pas nous comparer les uns aux autres, mais à regarder toujours vers toi. Seigneur, ton Fils Jésus était parfait. Tu étais parfait, Seigneur Jésus. C'est à toi qu'on veut ressembler. Et on ne peut pas y arriver sans toi. On veut être dépendant de toi. On veut être au pied de la croix. Aide-nous à y venir volontairement. Et Seigneur, amène les autres, toi-même, par ton Saint-Esprit. Aide-nous à les chercher. Aide-nous à prier pour eux. Aide-nous à les aimer. Et Seigneur Jésus, que ton nom est magnifique. Que ta personne est grande. Merci de cet exemple parfait. Comment tu as traité des péchés publics en traitant le cœur. Et Seigneur, c'est nos cœurs qu'on veut te confier. Parce qu'en dehors de toi et de ta grâce, on n'aurait pas de victoire. Seigneur, sois béni ce matin pour ta personne, ton être et ton œuvre. Que toute ton Église s'élève et dise Amen.